Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% football italien. Ça faisait longtemps. Très longtemps même, n'est-ce pas Guillaume Maillard-Pacini?
Trop longtemps, Yohann, trop longtemps. Écoute, ça faisait trop longtemps, mais malheureusement, on ne retrouvera pas le mondial. Donc, est-ce qu'on attend 50 plus pour en refaire un autre ou on en refait avant? Mais ouais, ça faisait longtemps, mais bon, on va parler de quelque chose quand même qu'on n'aurait pas aimé parler. Voilà,
il fallait bien une non-qualification de la nationale et pour nous faire reprendre les micros, mon cher Guillaume.
Ouais.
C'est le sujet de ce podcast. On va l'orienter peut-être un peu différemment. On va quand même revenir un peu sur une semaine après, en gros, ce match, revenir un petit peu sur le match, évidemment les raisons de cet échec. Mais on va surtout beaucoup se pencher sur l'avenir, ce qu'il faut faire, avec qui, quels joueurs doivent passer la main, quels joueurs doivent avoir leur chance, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer aussi, évidemment, dans le football italien. On va essayer de faire un ensemble, mais surtout se pencher un peu sur l'avenir, parce que malheureusement, ce qui est passé, on ne pourra pas trop le changer. Guillaume, je te propose de commencer à J+6, J+7 de ce qui s'est passé jeudi soir dernier, malheureusement. Ça pique toujours autant, hein, Guillaume.
Écoute, oui, alors on avait parlé hier dans un space sur Twitter, c'est sûr que l'état de choc a été énorme, surtout après le but. Je pense qu'on a réagi tous de manière alors similaire et différente, parce que dans les émotions, chacun les vit à sa façon, mais c'est évident que ça reste un choc énorme. D'en rater une, c'était déjà un choc. Alors d'en rater deux, c'est encore plus difficile. Mais voilà, j'étais triste, forcément. Et on va pas se mentir aussi, Yohann, pour le boulot, parce que forcément aussi, pour nous, ça joue sur nos boulots et sur nos carrières. Mais c'est évident que même à titre voilà plus global, voilà, ne pas avoir l'Italie un deuxième mondial de suite, La dernière fois, c'était en 2014, et c'était pas non plus la folie, on s'en rappelle. Oui, c'est sûr que c'était compliqué, mais avec le recul, tu le dis bien, on essaie d'analyser ce qui s'est passé, de voir ce qu'on peut améliorer, et c'est important de faire, on va dire, une analyse un peu globale sur l'état du football italien, même si, honnêtement, sans tout ça, sans faire, forcément d'analyse, on aurait dû battre la Macédoine dans tous les cas, ça empêche. Mais aujourd'hui, face à cette nouvelle défaite, cette nouvelle élimination, on est obligé de constater l'étendue des dégâts, peut-être pas repartir de zéro, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est champion d'Europe, et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas épisodique malgré ce qu'on dit, mais c'est important quand même de fixer les progrès qu'on peut faire et définir les axes sur lesquels on peut s'améliorer.
Tu sais, Guillaume, je me suis surpris le lendemain, alors le soir même, pas trop, parce qu'il y avait du boulot, il y avait la radio, donc toi, il y avait évidemment Eurosport, on était obligé de travailler, et quand on est pris dans le feu du truc, c'est pas qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, on n'a pas trop le temps d'y réfléchir non plus. Le lendemain, tu vois les mèmes de solitude, de Narcos, qui tournent
oui,
sans arrêt.
Ouais,
exactement. Je me suis retrouvé à mon bureau le lendemain matin. Totalement vidé en me disant mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui s'est passé,
une sidération un petit peu,
ça tu vois, et l'envie de rien, et c'est vraiment problématique, et t'as raison, quoi qu'il arrive, là on va parler de beaucoup de choses, mais quoi qu'il arrive, tu devais battre la Macédoine.
Exactement.
Du Nord,
c'est important de le dire,
et j'ai même envie de te dire, Guillaume, l'Italie n'aurait jamais dû se retrouver en position de jouer ce barrage, c'est ça le pire. En fait, ce qui fait le plus mal pour moi, ce qui est le plus décevant, c'est que là, on fait un constat sur le match de la Macédoine du Nord, mais en fait, ce match, il n'aurait jamais dû exister.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, après le match, pour me consoler un peu, j'ai regardé les réactions, même sur Sky, les journalistes présents, que ce soit Condo, Caressa et les autres. Et c'est vrai que Condo, qui bosse à la République, a dit quelque chose de très intéressant. Il disait, les joueurs vivaient ça comme une injustice. Mmh. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, mais même eux se demandaient ce qu'ils faisaient là. Ils ont été champions d'Europe. Il faut rappeler quand même, tu l'as dit, qu'on était en bonne posture, mine de rien, pour se qualifier au mondial. Il y a ces deux pénalties de Jorginho contre la Suisse ratées à l'aller et au retour. Et c'est vrai que ça se joue à rien. Donc, on parlerait d'autres choses aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, il y avait un sentiment quand même on n'aurait jamais dû être là. Et je pense que les joueurs l'ont perçu un peu comme ça, en se disant, mais en fait, c'est injuste. On est champions d'Europe. Ça amène à rien, mais on était en bonne posture. Et qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Qu'est-ce qu'on fait à Palerme? Pourquoi on joue la Macédoine? Et malheureusement, c'est aussi, alors je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça a aussi poussé Mancini peut-être à faire des choix en amont, en se disant, parce qu'on ne va pas se mentir, même moi, Yvan, moi le premier, je me suis dit, on va déjà quand même se focaliser sur la finale contre le Portugal ou la Turquie, parce qu'on s'est dit, on s'est tous dit, ça va être le match d'en face qui va être le plus compliqué et pas le nôtre. Et en fait, je pense qu'on a tous fait l'erreur de se dire, de se projeter trop loin. Et malheureusement, ça se joue à rien, mais là, tu te fais éliminer de rien.
Et pour revenir sur les matchs de la Suisse, mais on peut aussi englober la Bulgarie, l'Irlande du Nord aussi. C'était les quatre matchs très importants avant, évidemment, ce match de la Macédoine du Nord. Tu connais mon appétence pour les stats. le lendemain matin, dans ma période même narcos de solitude, où j'étais incapable de bouger, j'ai quand même regardé un peu les fameuses expected goals.
Ouais.
Tu sais que sur les 4 matchs, donc Bulgarie, les allers-retours contre la Suisse, Irlande du Nord et j'ajoute celui de la Macédoine du Nord, tu termines avec 9,5 expected goals, t'as marqué 2 buts. Marqué 2 buts.
Ouais, ça résume un peu contre la Macédoine du Nord, je crois que c'est 32 tirs. Hein.
Le tir de Berardi, Guillaume.
Pour moi, c'est la plus grosse occasion. Et pour moi, c'est là aussi que. Et c'est pour ça, tu vois, alors avant qu'on fasse l'état des lieux du foot italien et du calcio, c'est vrai que tu vois, pour moi, cette frappe est symbolique, parce que tu le sais comme moi, qu'à Sassuolo, avec la saison qu'il fait et qu'il vit, il a marqué son 60e but en Serie A le week-end juste d'avant, il fait probablement la meilleure saison de sa carrière à Sassuolo, la plus accomplie du moins, et cette frappe-là, 9 fois sur 10, voire 10 fois sur 10, il l'a mis à Sassuolo. Mais là, il a le pied qui tremble et il sait le poids de l'enjeu. Et je pense qu'une partie des joueurs, au-delà de l'injustice qu'ils pensaient vivre, ont même été paralysés mentalement par la taille de l'enjeu. Parce qu'en rater une de Coupe du Monde, c'est déjà compliqué. En rater deux, et je pense qu'ils ont senti le poids du truc. Et Berardi, sur cette frappe-là qui doit mettre en lucarne, ou du moins qui doit allumer. Il doit allumer le but. Il a plus, enfin, j'ai pas envie de dire qu'il a plus qu'à la mettre, mais il a juste à cadrer.
À cadrer, ouais.
Et à frapper fort, quoi. Et en fait, tu sens qu'il tremble. Alors qu'il a un pied gauche merveilleux, Mimmo Berardi. Et malheureusement, il tremble aussi. Donc, comme tu l'as dit, après, bon, on parlera du problème peut-être du numéro 9. Mais c'est sûr que sur ce match-là, tu as des joueurs qui mentalement n'ont pas été à la hauteur de l'événement parce qu'ils ont trop pâti justement l'enjeu de ce match-là.
Et puis il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur non plus sportivement, c'est-à-dire dans leur performance individuelle, parce que on souligne tous que l'Italie a un collectif qui réussit à pallier à l'absence de stars, et ça c'est vrai, il y a très peu de stars dans cet effectif-là. Tu prends tout l'effectif, t'as quoi ? T'as 2-3 stars aujourd'hui, enfin, qui peuvent avoir le statut star, c'est Jorginho, Verratti, Donnarumma, j'en vois pas d'autres personnellement.
T'en as peut-être qui pourront l'avoir d'ici peu, comme des Chiesa et d'autres.
Bien sûr.
En tout cas, pour l'instant, le seul joueur international que t'as peut-être avec Donnarumma, qui bon aujourd'hui traverse très compliqué, c'est surtout Verratti. Qui a été le meilleur dans ce match-là. D'ailleurs.
Et pour avoir un collectif fort, mine de rien, on a beau parler de collectif par rapport aux individualités, mais le collectif, il pourrait être fort que si tes individualités, elles répondent collectivement aussi au niveau de performance. Et là, il y a trop de joueurs qui sont aussi passés à côté, mais on va en reparler dans un instant. Et justement, Guillaume, je te propose de passer à l'avenir, ce qui va se passer du côté de la sélection nationale italienne. Alors, on peut commencer par ceux qui vont être amenés à partir, je pense, avant de parler de ceux qui pourront arriver et pourquoi ils doivent partir, etc. Alors, je te propose de commencer par un cas intéressant. On va même pas parler de joueurs, c'est le sélectionneur. parce que on en parlait en off avant de commencer, le soir de l'élimination, enfin, c'est même pas une élimination, c'est une non-qualification à la Coupe du Monde, on a quand même deux des principaux médias italiens, donc c'était Sky et la Gazzetta, qui en substance nous expliquent que Mancini va partir.
Oui, c'est quasiment acté. Ouais.
Exactement. Ouais. Et 48 heures après, tout le monde était sur une autre ligne de conduite, et ensuite Mancini a rassuré aussi tout le monde lors de la conférence de presse d'avant-match contre la Turquie, où il n'a pas dit « je reste », mais il l'a fait très clairement comprendre. Il a juste pas dit « je reste », en fait, mais tout le discours allait dans ce sens-là. Comment tu vois un peu ce... Alors maintenant, on va faire comme si c'était officiel, mais ce choix de Mancini de rester.
Bah déjà, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que dans tout ce qui a été dit, hein, il a été aussi dit que Mancini avait prévu de partir après le Mondial 2022, si l'Italie s'était qualifiée, parce que le quotidien de club lui manque et qu'il a beaucoup de propositions. Donc, on verra bien si c'est le cas, mais du coup, il n'y aura pas de mondial. En tout cas, voilà, il y avait aussi cette donnée-là qui était prise en cause à l'époque, du coup, la semaine dernière. Écoute, comment je prends ce choix-là? Moi, je pense que c'est probablement peut-être le meilleur sélectionneur qui peut relancer l'Italie. Déjà, parce que pour moi, l'épisode de l'Euro, on pourra aussi en reparler. Pour moi, c'est pas tant épisodique que ça non plus. Je pense qu'on peut pas tout jeter en l'air. En 2017, on repartait de zéro parce qu'on était à zéro. Il y avait plus rien. Alors, il y avait quand même des données différentes. Hein. Le groupe était plus compliqué. T'avais un adversaire aussi en barrage plus compliqué. T'étais pas champion d'Europe. Aujourd'hui, quand même, t'as quand même des bases sur lesquelles tu peux repartir. Et comme tu l'as dit, si Jorginho met ses deux pénalités, on parle complètement autre chose. Et même, j'ai envie de te dire, Johan, si on voit en finale contre le Portugal, je suis pas certain qu'il y ait cette réflexion globale. Elle aurait probablement lieu, mais peut-être pas autant. Donc moi, je pense que Mancini, c'est important aussi de démarrer un vrai cycle avec lui. Il est depuis 3 ans, mais c'est important de continuer déjà aussi, j'ai envie de te dire, parce que le groupe est avec lui. Et tu te souviens à l'époque du 2017, Ventura, il n'est plus du tout suivi, mais vraiment par personne. Tu te souviens, c'était de De Rossi sur le banc, ouais, qui était assez dingue. Mais c'est vrai qu'après, les lances se sont déliées, et on a vite compris que Ventura allait partir.
D'ailleurs, Guillaume, je te coupe un instant, mais le soir même de Italie-Macédoine du Nord, un des premiers trucs que dit Chiellini, c'est « j'espère que Mancini va rester ».
Exactement. Ouais, le groupe est avec lui, et il y a cette image aussi forte en conférence de presse, où Gravina, le président de la Fidici, est à ses côtés. Ce qu'à l'époque, n'avait pas fait avec Ventura. Donc là aussi, tu as quand même une image. C'est vrai que Gravina a été, entre guillemets, en pressing sur Mancini dans les heures qui ont suivi la débâcle, parce qu'il voulait vraiment qu'il reste, et il a réussi à le convaincre. À froid, Mancini s'est aussi convaincu. Mais je pense que c'est important de continuer avec lui, voilà, parce que c'est peut-être aussi celui qui connaît le mieux ses joueurs, qui est amené à mieux intégrer aussi les jeunes qui vont arriver. Et puis surtout, Johan, on ne va pas se mentir. Qui sinon lui?
Mais t'as tout à fait raison, et je pense que c'est important ce que t'as rappelé au tout début. C'est en gros 2022, c'est pas 2017.
Exactement.
2017, t'as parlé de notre ami Ventura et de la gestion du groupe, le management qui était catastrophique, etc. Avec évidemment l'épisode De Rossi qui ne veut pas, enfin entre guillemets, ne veut pas laisser chauffer quand on lui demande, parce qu'il dit mais on a besoin d'un but, d'où moi je rentre et pas un joueur offensif alors qu'il faut marquer. mais il y avait aussi le jeu. Il n'y avait pas de jeu à l'époque. En fait, il n'y a rien de comparable. C'est qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de groupe. Donc, c'est vraiment incomparable. Et là où la continuité, c'est même pas une révolution que doit faire Mancini, c'est juste continuer cette évolution qu'il a entamée il y a 3 ans, qui est pas terminée, qui est loin d'être terminée. Il n'est pas exemple de tout reproche sur la gestion, notamment du match contre la Macédoine du Nord, on y reviendra tout à l'heure, notamment en termes de joueurs, de choix de joueurs. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et tu l'as rappelé, c'est la seule option qui me paraît viable, parce que derrière le Tumeki, les pistes, c'était Pioli. J'y crois pas une seule seconde qu'il lâchera le Milan pour ça.
Et il vient prolonger le Milan.
Exactement. Deuxième solution, Ancelotti. Mais pour moi, déjà, il est sous contrat au Real. C'était quand même un élément important déjà à prendre en compte.
C'est pas un petit club.
Bah voilà, c'est ça. Même si tout le monde s'accorde à dire, ouais, on n'est pas sûr qu'il passe l'été, etc., etc. J'ai envie de rappeler aussi que avant l'été, dès le mois de juin, il y a combien? Il y a 5 ou 6 matchs. Il y a 5 matchs, je crois. Il doit y en avoir un amical contre l'Argentine.
Ouais. Et il y avait les matchs de National League.
Et il y en a 4, je crois, de la Ligue des Nations. Donc on va éviter de prendre quelqu'un juste pour 3 mois. Et puis ensuite, je suis désolé, quand tu as décidé de partir sur ce projet-là, en faisant monter des joueurs, des jeunes joueurs, même si ce n'est pas suffisant et qu'il faudra en faire monter d'autres, avec cette qualité de jeu-là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Ancelotti jouer comme ça ? C'est pas l'entraîneur qui va faire progresser des jeunes, c'est pas un entraîneur qui va forcément poursuivre l'idéologie de jeu de Roberto Mancini. Et donc je te laisse parler du duo improbable.
Ouais, qui était envisagé quand même, et c'est le plan numéro 1, parce que c'est vrai que le duo, alors Lippi aurait été directeur technique de la Fédé entre guillemets, et Cannavale aurait été sur le banc, alors que bon, ses expériences en tant qu'entraîneur sont très limitées. Et c'est vrai que, enfin, imaginez ce duo là pour moi, c'était vraiment repartir de nulle part, parce que déjà, tu y avait aucune certitude. Et comme tu l'as dit, on repart pas de zéro pour moi là maintenant. On a un projet quand même qu'il faut continuer. Et surtout, la différence avec 2017, c'est qu'en 2017, c'est vrai que ce match face à la Suède, je m'en souviens, mais c'est vrai que le choc est encore là. Mais en tout cas, j'ai pas eu la sensation qu'on pouvait le gagner, ce match-là. À l'aller, voilà, on prend un but un peu casual, mais au retour, en tout cas, voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais en tout cas là ça se joue à rien. Voilà, les pénalités de Jorginho, ça se joue à pas grand chose malheureusement. Ça, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais pour moi, voilà, c'est pas non plus on va pas bâtir sur des ruines. Il y a des choses à améliorer, mais en tout cas le projet qu'a installé Mancini, qui était gagnant en juillet dernier, a le mérite d'exister, a le mérite de continuer. Comme tu l'as dit, je sais que tu étais très attaché au jeu. On a vu un beau jeu durant l'Euro. C'est passé parfois ric-rac face à l'Autriche, face à l'Espagne, mais le fait est que c'est passé. T'as été battre l'Angleterre en finale chez elle, donc en 7 mois, t'as pas pu devenir une équipe de pitre, alors que t'étais une équipe de héros l'été dernier. Pour moi, on a des certitudes sur lesquelles repartir et se baser, et on va en parler. Et ça servait à rien de tout recommencer avec un sélectionneur. Alors, t'imagines Cannavale sur le banc, moi je l'imagine pas du tout. Même s'il sera peut-être un grand entraîneur un jour, c'était pas le moment du tout de lancer Cannavale en tant qu'entraîneur, et rappeler surtout Marcello Lippi, avec qui, voilà, pour qui j'ai tout le respect, mais voilà, c'est fini maintenant. Il faut aussi repartir sur, voilà, d'être avec des nouvelles têtes à la Fédé, justement, mais pas rebâtir encore une fois sur des vieux noms. Tu sais, ça me fait passer parfois, tant qu'à Tchoupépé, on en rigole souvent, mais quand les entraîneurs sont rappelés sur les bancs, tu sais.
Cercecos, mais compagnie, voilà. Ballardini, etc.
Voilà, Ballardino Gen, au bout d'un moment, stop. C'est aussi important peut-être de changer des têtes ailleurs, mais je pense que Mancini, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, est l'homme le plus idoine pour continuer, même si, évidemment, il a fait des erreurs sur ce match-là.
On va s'intéresser aux joueurs maintenant, Guillaume, sur les joueurs qui vont sans doute, ou qui pourraient, ou qui devraient, ça ce sera peut-être plus notre avis que ce qui peut se passer, passer la main. Je te propose de faire secteur par secteur, c'est peut-être le plus simple. Au niveau des gardiens, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que Salvatore Siri, ou à mon avis, c'est...
35 ans,
C'est cuit, et je pense que c'est le moment d'installer vraiment un Meret, par exemple, en deuxième gardien. Je sais que t'aimes beaucoup Kragne aussi. Ouais. Je sais pas, soit l'un, soit l'autre, mais sachant que derrière t'as aussi Carneza qui de la U21 qui pousse un peu et qui fait une grosse saison à la Cremonese, avec d'ailleurs
qui plaît beaucoup à la Lazio.
Voilà, et plusieurs joueurs dont on va reparler qui sont en prêt du côté du club de Crémone et donc c'est le seul joueur qu'on voit partir en fait, hein, Guillaume, au niveau
ouais,
du gardien.
De toute façon, on va pas se mentir, dans la hiérarchie des gardiens, même si Donnarumma traverse une période assez compliquée, oui, que ce soit en club ou en sélection, on l'a vu encore face à la Turquie, honnêtement, la hiérarchie ne sera pas bousculée. Il faudrait vraiment un cataclysme, vraiment que Gigio, voilà, n'y arrive plus du tout, ce que j'ai du mal à imaginer parce qu'il est encore très jeune. Mais Donnarumma n'est pas du tout en danger, du moins, j'imagine pas. Meret prendre sa place ou Kragne, voilà, Donnarumma reste quand même le taulier du poste, même si évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué.
En défense, il peut y avoir pas mal de changements, Guillaume.
Oui.
Un cas important qui a écrit l'histoire de la Nationale est Chiellini. Je pense, pour deux raisons. Déjà parce que lui est de plus en plus souvent blessé. Et là, ça commence vraiment à devenir problématique.
17 matchs une saison.
Mais à la Juve aussi, hein, d'ailleurs.
Ouais, 17 matchs.
Voilà, c'est ça.
Très peu.
Et aussi parce que il est clairement temps d'installer Bastoni à ce poste-là.
Bastoni, qu'on adore à l'Inter. Ouais.
C'est sans doute aujourd'hui dans les perspectives d'avenir, c'est sans doute le plus grand défenseur italien.
Ouais, pour Bastoni, c'est pas trop compliqué de peut-être de jongler d'une défense à 3 avec Inzaghi, avec une défense à 4 en national. Tu penses qu'il peut s'adapter malgré peut-être le manque d'automatisme ou la différence de jeu qui peut exister.
C'est une vraie question, mais je vois en Bastoni quelqu'un de très intelligent. Tu sais, la façon aussi qu'il a de faire ce dépassement de fonction, même en tant que troisième défenseur central à l'Inter, cette façon d'avancer avec le ballon, de casser les lignes, soit par la conduite de balle, soit par une passe, le jeu long qui est très intéressant. Alors évidemment, ça va demander de l'adaptation. Il pourra plus sortir aussi souvent ballon au pied. Mais et puis de toute façon, Guillaume, on n'a pas d'autre choix en fait.
Non, mais c'est le défenseur de demain.
Voilà.
Et cette image d'ailleurs, quand Chiellini sort face à la Turquie,
bien sûr,
justement pour Bastoni, où tu sens quand même il y a un passage aussi de témoin entre les deux.
Et puis il fera des erreurs,
bien
Guillaume.
Sûr, ouais.
Mais c'est normal, ça fera partie du processus. Il faudra l'accepter. Il faudra juste pas au bout de 3-4 matchs, s'il fait une erreur, de dire Chiellini, est-ce qu'on pourrait pas le rappeler, parce que quand même, tu vois, le genre de truc qu'on voit dans la presse italienne sans arrêt, il faut aussi
parfois avec Buffon aussi, hein.
Ouais, voilà, tu vois, il faut arrêter avec ce genre de truc et on y reviendra après, mais les médias ont aussi leur responsabilité là-dedans et donc Baston, il prendra sans doute la place de Chiellini à ce même poste à Acerbi. Bon,
à Acerbi, 34 ans, ouais, je pense aussi que c'est le moment,
ouais. Ouais, et puis avec la Lazio, c'est compliqué aussi cette année. Hein.
Ouais, il connaît une saison assez compliquée, il a été blessé, il y a le conflit aussi avec les tifosi,
ouais.
Donc je pense aussi qu'Acerbi peut tourner la page. Alors après, encore une fois, on va dire les joueurs qui pourraient partir, mais il n'y a personne pour l'instant.
Exactement.
Qui a annoncé qu'il allait arrêter, parce qu'il y a des matchs, tu l'as dit, qui vont arriver. Donc pour l'instant, on est dans le domaine de la supposition, mais c'est sûr aussi qu'en fonction de l'âge et peut-être aussi le rendement, mais voilà, il est important aussi de temps de tourner des pages. Et Acerbi, je pense aussi... Voilà, qu'il est probablement temps aussi de dire stop et d'appeler peut-être d'autres joueurs.
J'ai un troisième défenseur central à te soumettre, c'est Raphaël Toloi,
ouais.
Qui a 31 ans. Bon, après, on n'est pas sur un joueur indispensable non plus, hein, qui a énormément joué avec l'Italie, qui était présent à l'Euro évidemment. Bon, je pense que là aussi, si on veut tourner la page, c'est pas une idée. L'idée, c'est pas de faire que du jeunisme. Hein. Par exemple, pour moi, un joueur comme Bonucci, avec toutes les réserves que vous savez que j'ai sur les qualités défensives de Bonucci, pour moi, ça se discute pas, il doit continuer. L'idée, c'est pas de faire du jeunisme pour du jeunisme, simplement de se dire que là, il y a une fenêtre de tir qui appelle des changements possibles sans grand défi sportif, vraiment de se dire la Coupe du Monde, c'est dans 6 mois, la Coupe du Monde, c'est dans 7 mois, etc. Là, on va avoir 2 ans et demi quasiment. Ouais. Pour repenser un petit peu
et pour installer des nouveaux joueurs aussi.
Exactement.
Le temps de... C'est pour ça que Bonucci aussi, moi aussi j'ai beaucoup de réserves et là-dessus ça ne discute pas, notamment en vue de son rendement, mais au niveau de son statut, du moins en sélection, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est important. Mmh. Et lui aussi l'a dit, il veut servir de guide pour les jeunes qui vont arriver. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, il n'y a pas une grande compétition qui va arriver, il y a la Nations League, mais honnêtement, ça passionne peu de personnes. On sait bien que ce n'est pas ni une Coupe du Monde ni un Euro. Donc aussi, on va avoir des tests grandeur nature. Donc c'est important aussi d'appeler des jeunes qui auront le temps de s'adapter à cette nouvelle réalité qui est la sélection, qui restera championne d'Europe quand même. Mais voilà, c'est important. Bah, comme tu l'as dit, Toloi, c'est pas un élément indispensable. Il a 31 ans. voilà, je pense que ce sera pas avec lui qu'on va construire la nationale de demain, parce que c'était déjà pas celle d'hier ni d'aujourd'hui. Il était là dans les, on va dire, dans les rotations. Et voilà, c'est aussi un joueur sur qui on peut, voilà, on peut faire l'impasse.
J'ai deux latéraux à te soumettre, Guillaume. Le premier, Florenzi.
31 ans.
Le deuxième, bon, qui pour moi est une anomalie, hein, qu'il ait été convoqué là pour les barrages, c'est notre ami De Chilio. voilà. Pour moi, c'est les deux joueurs dont tu peux te passer le plus facilement.
Florenzi, pareil, le statut est important, mais malheureusement, on l'a vu, où il a eu un rôle important dans le vestiaire. Il fait une saison, on va dire, correcte avec Milan, et le début est un peu compliqué, il s'est repris ensuite. Et voilà, lui aussi, à son âge, 31 ans. À voir peut-être que Mancini voudra continuer avec lui pour, voilà, pareil, pour transmettre un peu le flambeau, mais à droite, avec Di Lorenzo, qui était malheureusement blessé, Calabria, qui n'a pas été appelé, on se demande tous pourquoi.
Exactement.
Moi, je pense que, voilà, on peut aussi se passer de Florenzi.
Après, quand on dit ça, Guillaume, c'est en gros, s'il y a une galère et que tu as besoin d'un joueur,
Florenzi, évidemment,
il peut être là.
Là, c'est dans l'idéal.
Voilà, ouais. Mais construire, si tu as deux personnes par poste, tu as tout à fait raison. Di Lorenzo et Calabria, c'est les deux qui doivent être à droite, en fait.
Mais tu sais que, du coup, il a convoqué Florenzi, qui est la doubleur de Calabria avec Milan.
Mais oui, enfin, bien sûr.
C'est assez paradoxal. Et De Chilio, pour moi, c'est vraiment un choix, Johan, que j'ai pas compris du tout. Mais vraiment, c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui n'aurait probablement rien changé à la qualification.
Non,
hein, c'est pas ça le débat. Mais le fait de convoquer De Chilio, qui stagne pour moi depuis des années, qui fait une saison, on va dire, elle, lui aussi correcte avec la Juve, sans flamber. Mais honnêtement, si quand Di Lorenzo se blesse, pour tout le monde, c'était évident que Calabria allait être appelé.
Oui.
De Chilio, c'est du recyclage encore et encore, même si voilà. Lui aussi, hein, mine de rien, il est encore jeune, mais mine de rien, les saisons avancent. À Lyon, ça n'avait pas été ça. À Milan, bon, bah, ça avait été aussi compliqué. À la Juve, il a été rappelé, mais personne ne comptait sur lui. Aujourd'hui, il dépanne de temps en temps, il joue quelques matchs, mais en tout cas, voilà, moi, De Chilio, c'est vraiment un joueur sur qui j'attendais beaucoup, et j'ai été trop déçu par son niveau et par le peu d'... Enfin, après, il y a eu beaucoup d'attentes, hein, peut-être de trop. Tu te rappelles, à l'époque, on disait le nouveau Maldini, malheureusement pour lui, ça a peut-être pesé aussi. Mais en tout cas, voilà, le rappeler aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé ça un peu...
Et puis Guillaume, il y a un argument qu'on avance souvent pour De Chilio. Oui, mais il peut jouer à droite et à gauche. Oui, ok, mais la polyvalence, quand t'es pas bon sur les deux postes, ça veut pas dire que c'est important, tu vois. Moi, je préfère un latéral droit qui n'est pas polyvalent, mais qui est bon, et un latéral gauche qui n'est pas polyvalent, mais qui est bon, plutôt qu'un mec polyvalent qui va rien t'apporter, en fait.
Bah, le problème, tu vois, c'est qu'il fait toujours le compiti, non? C'est le fameux compiti, qui fait le petit devoir, sans prendre de risque. Alors, il a fait quelques passes décisives avec la Juve cette année, mais quelques centres réussis. Mais honnêtement, pour moi, c'est trop limité. Et voilà, je pense qu'on peut trouver mieux à droite. Je pense que déjà Di Lorenzo Calabria, c'est déjà très bien pour le poste droit. Donc là-dessus, je pense que voilà, on sera plutôt tranquille.
Au milieu de terrain, c'est là où il y aura le moins de changements. C'est là où il y a le moins de problèmes aussi, Guillaume, parce qu'en termes de réservoir, pour le coup, l'Italie est vraiment bien dotée.
Oui.
Le seul où il y a un petit doute, c'est Jorginho.
Ah oui, j'allais te demander, qu'est-ce que tu fais du coup de Jorginho ?
C'est une vraie question parce que le double playmaker avec Verratti a été une des fondations de l'Italie de Roberto Mancini. Très important à l'Euro, évidemment, aussi, Jorginho. Mais là, tu te dis aussi que, typiquement, en prenant le match contre la Macédoine du Nord, avoir et Verratti et Jorginho, en termes de profil, bon, parfois tu te demandes un peu l'intérêt face à des équipes extrêmement regroupées où tu pourrais chercher à avoir quelqu'un qui amène un peu plus de volume de course, de densité physique aussi pour aller provoquer des duels, des joueurs un peu plus à l'aise dans les 1 contre 1, des joueurs qui peuvent jouer un peu plus haut. Alors, Verratti, il a fait un super match contre la Macédoine du Nord et pour moi, c'est un joueur qu'il ne faut pas toucher.
Bah, d'ailleurs, la Gazette a dit que c'était le seul indispensable.
Exactement. Ouais. Mais Jorginho, il peut y avoir une vraie interrogation. Ça peut paraître un peu dur de se dire il faut tourner la page Jorginho. Mais est-ce que tu l'appelles pour ne pas le faire jouer ?
Il a 30 ans. Hein,
voilà, c'est ça. Sachant que derrière, il y a pas mal de mecs qui poussent hein, au milieu de terrain. Il y a Tonal, il y a Pellegrini, il y a Fratesi. Et on va en parler d'autres après encore.
Et Locatelli
qui
sont pas,
aussi. Locatelli, là, hein. Exactement. Bon, hier, il y a Pessina qui a joué aussi en poste de relayeur. Mais lui, il est dans une saison un peu compliquée aussi, Pessina, ouais. à l'Atalanta, entre blessures et difficultés à revenir en forme. Mais bref, tu as quasiment 10 joueurs, 10 milieux de terrain pour 5-6 postes, en fait. Donc, que faire de Jorginho,
c'est une vraie... Est-ce que tu penses qu'il va continuer à l'appeler quand même ? Moi, je pense quand même qu'il va continuer.
Qu'il va continuer à l'appeler, mais qu'il sera plus titulaire indiscutable.
Ouais.
Et ça serait assez juste, en fait. Par exemple, demain, tu me dis, l'Italie joue l'Angleterre. Banco, je remets Jorginho, Verratti et un troisième, soit Barella, soit Locatelli. Tu me dis, on va jouer la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Roumanie, la Finlande, etc. Je me dis, allez, un peu plus d'ambition, je sors Jorginho, je mets Verratti devant la défense et je mets Locatelli, Barella ou Tonali, Barella ou Tonali, Pellegrini, ou tu vois, d'autres profils aussi qui t'amèneront plus de choses face à des défenses regroupées en fait.
Ouais.
Mais je le vois pas sortir vraiment du groupe en fait. Oui, sauf si lui le décide. Après, ça peut être une décision de sa part.
Ouais, je pense pas. Moi, je pense pas continuer.
Donc. En attaque, Guillaume. Ouais. Bon, il y a deux calépineux. En attaque, Guillaume, il y a deux calépineux.
Ah. Allez.
Bon, on commence par le.
Vas-y.
Le je sais pas comment l'appeler, le cas le plus emblématique, notamment dans les choix de Mancini, c'est Lorenzo Insigne.
Alors, que dire de Lorenzo Insigne? Déjà que c'est compliqué avec Naples aussi. Hein.
Ouais, c'est important, oui, c'est de ça, le dire. Bien sûr.
Et, alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui vivrait sur Mars, voilà, il a signé à Toronto en janvier dernier, son départ est acté. Depuis, déjà avant, ce n'était pas non plus, on va dire, la folie. Depuis, c'est encore plus compliqué avec les supporters. Déjà, que je pense, aurait préféré qu'il parte en janvier pour vite clore ce chapitre-là. Et c'est vrai qu'avec la sélection, il a aussi le numéro 10. Il l'avait face à la Macédoine.
Et surtout, voilà, ne dis pas qu'il y avait le numéro 10
non.
contre la
non,
Turquie,
non.
s'il te plaît.
Non, on fera un autre podcast là-dessus.
Ouais.
Le numéro 10. spoil, c'était Europe Euro. Mais pour revenir sur Insigne, évidemment qu'il a déçu, Johan. Et tu sais, même à l'Euro, quand même, ce n'était pas l'insigne qu'on avait connu, voilà, l'insigne en grande forme. Voilà, ça avait déjà été assez, quand même assez compliqué et par rapport à ce qu'on attend de lui, parce que c'est un joueur quand même qu'on aime beaucoup. Là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup de doutes. Sur qu'on aime beaucoup, voilà, il avait du talent. Et dans ce genre de match face à la Macédoine, tu vois, c'est de lui que doit venir l'étincelle. Et tu vois, par exemple, Belal, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il a été présent quand même dans la création, dans ce qu'il a amené devant. Il s'est procuré des occasions. Insigne. Quand il prend le ballon, c'est lui qui aurait dû créer la brèche. Et c'est vrai qu'il a encore une fois déçu. C'est pas la première fois.
Ça fait trop de matchs où c'est un fantôme.
Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il signe et c'est fini aussi. Et je pense que voilà, il va partir à Toronto.
Et voilà.
Et je pense que c'est l'occasion aussi de tourner la page de la nationale.
Deuxième cas, Ciro Immobile.
Ben comment, Suan? Allez, honneur à toi. Je te donne la patate chaude.
Moi, j'en avais parlé à la radio. Je pense qu'il faut continuer à l'appeler. Mais c'est Scamacca qu'il faut installer en numéro 9. Il faut continuer à l'appeler parce que je ne veux pas faire que du jeunisme d'un côté ou du dégagisme de l'autre, en fait. C'est-à-dire que Immobile, ok, il a pas performé comme tout le monde l'attendait. Mais aussi, on peut se poser une question. C'est comme avec Bonucci tout à l'heure, en fait. Là où c'est plus facile pour Chiellini, au-delà même des blessures, c'est que derrière, il y a la solution. La solution, c'est Bastoni. Bonucci, derrière, la solution, c'est quoi? C'est Mancini, de la Roma. C'est pas suffisant encore à l'heure actuelle. Ça peut le devenir, peut-être. Il est encore à peu près jeune, on va le dire comme ça, à l'échelle du football. Ça peut le devenir, il doit progresser, etc., etc. Mais c'est pas aussi évident que Bastoni qui est l'ini, si tu veux. Ouais. Et bah, pour Immobile, le truc, c'est que c'est évident que Scamacca doit être installé, mais si on n'appelle pas Immobile, t'appelles qui derrière Scamacca?
Et surtout qu'Immobile, c'est encore le meilleur buteur de la Serie A aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est, voilà, il ne faut pas oublier que Thierry Immobile a été soulier d'or il n'y a pas si longtemps que ça et que c'est un joueur qui, aujourd'hui, est le meilleur buteur du championnat. Donc, c'est compliqué de te passer lui aussi. Alors après,
et puis, il a l'attitude quand même pour lui, Guillaume. Contrairement à Insigne, parfois, où tu sens qu'il subit les événements. Lui, il court, tout n'est pas
mais
parfait.
Mais tu sens qu'il en souffre. Hein.
Bien
tu
sûr.
Tu sens qu'il en souffre hein, parce qu'en Italie, il y a quand même une relation de « je t'aime, moi non plus » parce qu'on attendait beaucoup de lui. Et qu'en sélection, il a quasiment jamais performé. C'est vrai que même à l'Euro, où ça avait été aussi compliqué, on se rappelle que Mancini avait tenté le faux neuf sur plusieurs matchs parce qu'il cherchait une solution. Et on va pas se mentir aussi, man, l'Italie n'est pas non plus une nation historique de bombes. Voilà, il y en a eu, certes, mais on n'est pas non plus une nation qui, voilà, alors, certes, on peut rappeler les Inzaghi, les Vieri, les, voilà, mais il faudrait remonter encore plus loin. On en parlait hier dans le Space. Avec Eric de SoFoot, tu vois, mais les Massol, les Piola à l'époque, tu vois, ça remonte hyper loin. Donc, Immobile, aujourd'hui, il est encore performant en club. Et comme tu le dis, en sélection, c'est trop compliqué et c'est peut-être impossible de passer, d'un joueur comme lui qui a encore une fois marqué sa vingtaine de buts. C'est une habitude chaque année. C'est sûr qu'il y a une différence de jeu entre la Lazio et de confort et d'automatisme.
Au-delà même du maillot qui pèse, évidemment, ça c'est vrai, je le conteste pas. Mais je trouve que dans les débats en Italie, on se contente de dire ça. Pour moi, c'est pas suffisant. La Lazio, même la Lazio de Sarri, ne joue pas comme la sélection nationale. Je sais pas si t'as le même avis que moi, petit laïus sur la Lazio de Sarri. Tu t'attendais sans doute pas à ce style de jeu-là. Moi, la Lazio de Sarri, c'est fou comme en fait, là où elle est la plus dangereuse, c'est en transition, c'est en contre. Et ça, c'est hérité de Inzaghi. Parce que Inzaghi, tu sais très bien, c'était bloc médian, 3-5-2, bloc médian, et on se projette vite vers l'avant. Avec le nouvel entraîneur, il y a cette volonté de plus contrôler. Ça, c'est indéniable, mais les occasions les plus dangereuses de la Lazio à chaque match, et j'ai vu tous les matchs de la Lazio cette saison, elles arrivent en transition, à la récupération, parce qu'ils se servent de Pedro et de Felipe Anderson qui vont très vite sur les côtés.
Et Zaccagni même.
Hein, et Zaccagni maintenant, qui a un peu pris la place aussi sur l'aile gauche. Et donc, c'est plus facile pour Immobilier qui est un dévoreur d'espace. Le problème, quand tu as un jeu de position sur attaque placée, on va dire lente, entre guillemets, c'est que Immobilier ne peut pas utiliser ses facultés de déplacement dans l'espace quand il a du champ devant lui. Et c'est un vrai problème, et c'est aussi ce qui explique, c'est pas la seule chose, évidemment il y a le poids du maillot, mais on s'arrête trop souvent sur « Ah ouais, mais jouer pour l'Italie, c'est pas pareil que jouer pour la Lazio. » C'est vrai, mais regardons aussi les styles des équipes pour essayer de comprendre pourquoi un attaquant avec certaines qualités n'est pas performant en national.
Il y a un problème d'acheminement et vers le but, sur la construction, c'est totalement différent, je suis d'accord avec toi. Après, je vais aussi me faire l'avocat du diable. Lui aussi aurait peut-être pu, on va dire, dépasser tout ça et s'imposer dans un autre registre.
Bien
alors,
sûr.
Qui est évidemment plus complexe, hein, parce que, et en plus, faut pour Bélioban, qu'en sélection, t'as quand même beaucoup moins de temps pour t'adapter à un nouveau jeu et c'est toujours plus complexe de construire aussi. Mais voilà, Immobilier aussi, parfois, a eu des occasions, il les a manquées. Il y avait aussi un problème de confiance qu'il a toujours avec la sélection parce que justement, il pâtit beaucoup de cette relation qui s'est construite avec le public italien qui est un peu de je t'aime moi non plus et ce manque de confiance là tu le vois sur les occasions qui avec la Lazio il n'aurait jamais raté. Donc voilà, je suis d'accord avec toi sur le jeu. Après, je pense que lui aussi a fait ses erreurs avec la sélection, mais je pense voilà, on peut pas tirer une croix aussi facilement sur le meilleur buteur italien de ces dernières années en Serie A. Il est à 20 buts minimum par saison depuis qu'il a fait son périple, que ce soit à Dortmund ou à Séville. Mais depuis qu'il a fait Torino et Lazio, c'est un des meilleurs attaquants d'Italie, si ce n'est le meilleur attaquant italien. Donc, je veux bien qu'on prépare la suite. Et Scamacca, comme je l'ai dit, est un choix assez naturel, parce qu'il a toutes les qualités pour le faire. Après, Scamacca, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'est pas encore accompli, qu'il lui faut du temps, qu'il lui faut apprendre. Et à côté d'un joueur comme Ciro Immobile, tu vois, par exemple, je sacrifierais plus peut-être Igalo Belotti, que j'aime beaucoup.
Je suis d'accord.
Voilà, que Ciro Immobile, qui est aujourd'hui. Et le meilleur buteur de la série.
Mais tu sais quoi, moi je sacrifierais aucun des deux en fait, parce qu'on va parler des autres attaquants.
Mais t'as pas mieux.
Non, alors c'est ça. Alors moi déjà, mettons les pieds dans le plat. João Pedro, c'est non.
Non, je
sais pas. Mais matin, midi et soir.
Mais c'est pas de sa faute. Alors encore
non.
Une fois, hein, c'est pas du tout de sa faute.
Bien sûr.
On est là aujourd'hui, hein, mais c'est sûr que l'appeler dans un moment comme ça, c'est assez symbolique quand même du monde que tu traverses.
C'est ça. Et puis surtout, le préférer lui à Daniel ou Zakaï sur le banc contre la Macédoine du Nord. Bon, bref. Donc pour moi, c'est non. Alors Balotelli, c'est non matin, midi et soir. Même chose. Parce que oui, sur un geste, machin. Oui, ça fait 10 ans que sur un geste, il peut faire quelque chose. Ça fait 10 ans que ce geste, on le voit pas. Donc c'est non. Je sais pas si t'es du même avis, mais moi, c'est non. Pareil.
D'accord.
Et ensuite, donc pour le registre d'attaquant, c'est à peu près tout ce que j'ai. J'écarte aussi Zappa Costa, en nom que je m'étais noté. Et puis Bernardeschi aussi. Voilà. Alors, il n'était pas là, hein, donc c'est pas le débat.
On sait que Salis Sassoucho aussi nous écoute. Mais...
Non, mais tu vois, Guillaume, comme on parle de l'évolution dans les semaines, mois à venir... la Macédoine du Nord, c'est pas de la faute de Bernardeschi, hein. Mais juste là, on se projette sur ce qui va arriver à l'avenir. Et aujourd'hui, le milieu de la Juve ne justifie plus sa présence au sein de l'effectif, en fait. Et ça deviendra jamais un titulaire à part entière de la sélection. Donc, donnant la chance à d'autres milieux ou d'autres joueurs de côté, plus talentueux que lui, qui joue peut-être pas à la Juve, mais sans doute avec plus de talent que lui, d'essayer de devenir indispensable à la sélection.
Mais surtout que les joueurs du côté, tu les as en Italie. Il y a quand même des joueurs qui, voilà, un joueur comme Zaniolo, tu vois, on parle souvent de crack, entre guillemets. Alors, Dieu sait qu'en Italie, on n'a pas des Mbappé ou autres, mais tu vois, des joueurs comme Zaniolo, comme Chiesa, on sait très bien que c'est sûr. Autour d'eux qu'on va construire l'attaque de la nationale. Et donc, là-dessus, même si, voilà, Bernadette, malheureusement, alors on va voir s'il prolongera la Juve ou pas, mais voilà, on a bien compris aussi que c'était pas le joueur qu'on attendait, et il a pas du tout répondu aux attentes. Donc, déjà, la Juve, c'est compliqué. Donc, de là, après la sélection aujourd'hui, je pense que là aussi, il faut tourner la page.
Alors Guillaume, justement, on va tourner la page. Qui doit arriver durablement dans cette équipe? Je te propose trois catégories. La première, ça sera dans le 11, c'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire prendre la place tout de suite, mais c'est être plus présent dans la rotation, ouais. C'est-à-dire parfois faire un match, parfois deux d'affilée, tu joues pas le troisième mais tu reprends le quatrième. Deuxième catégorie, arriver dans le groupe, c'est-à-dire que soit ils n'ont pas du tout connu le groupe de la sélection, soit ils ont été appelés une fois en janvier, par exemple, lors du stage, mais méritent leur place. Et puis le troisième, c'est, on va appeler ça surveiller de près, c'est-à-dire les plus jeunes sur qui il faut commencer à peut-être à compter. Alors je te propose, Guillaume.
On commence par quoi?
Je te propose même chose, par défense, secteur. Ouais. Voilà. Alors gardien, on a un peu répondu déjà tout à l'heure. Hein. Il y aura pas de bouleversement une fois qu'on aura dit qu'il y a Donnarumma, Cragno et.
Non, on peut citer ouais, aussi Gollini, Vicario.
Moi, ouais, mais regarde, Gollini, il joue pas.
Mais tu vois qu'il y a 26 ans. Et tu as dit Carnese qui a 21 ans. Et il faut aussi surveiller Plizzardi, on en parle même depuis longtemps, qui a 22 ans, qui est en prêt ouais. actuellement. Voilà, au niveau des gardiens, je pense qu'on n'a pas trop à être inquiet là-dessus. Voilà, même si ce serait important de récupérer le vrai Donnarumma, si possible.
Ça serait pas mal. En défense, Guillaume. Bastoni, c'est fait, on l'a dit. Ouais. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Imaginons les quatre défenseurs dans les prochains mois. Est-ce qu'on est d'accord si on dit Di Lorenzo, à droite, Bonucci, axe droit, Bastoni, axe gauche,
et Spinazzola.
S'il revient bien, ouais. etc. Mais on part sur ça. Maintenant, oui. comme on se dit qu'il faut deux joueurs par poste, quelles seraient les réserves à droite, selon toi? On l'a déjà un peu dit, Calabria.
Voilà, Calabria, je pense qu'il a, aussi le profil pour, voilà, aujourd'hui, il a accompli à Milan, il a trouvé sa place, il est capitaine, quand Romagnoli n'est pas là, donc là-dessus, je pense que Calabria, il a pris une dimension, il faut rappeler que Milan quand même aussi premier, donc, il a vraiment retrouvé une confiance qu'il n'a jamais eue, et je pense que, avec Di Lorenzo et Calabria, il était quand même tranquille. Moi, il y a un joueur, Johan, qui me plaît beaucoup cette année, c'est Bellanova, qui est en prêt de Bordeaux à Cal, qui réalise des très bons matchs.
Je suis très partagé sur ce joueur.
Écoute, moi, en tout cas, encore une fois, on parle de la sélection, c'est évidemment encore trop tôt. Hein. Voilà, disons que j'ai vu des belles choses
oui.
qui me laissent à penser que, voilà, on parle aussi de gros clubs sur lui, mais j'ai pas envie d'aller trop vite en besoin, mais en tout cas, j'ai vu des qualités.
C'est vrai.
Après, je sais que c'est aussi un joueur assez particulier, même au niveau de la mentalité. Donc, voilà, j'ai quand même quelques réserves. Mais moi, tu sais, franchement, si tu me dis le côté droit, le couloir droit avec Di Lorenzo Calabria, il y a Di Lorenzo qui est très très loin avec le Napoli, qui est malheureusement blessé actuellement. C'est un gros coup dur pour Naples dans la course au titre. Mais voilà, Di Lorenzo et Calabria, pour moi, je pense qu'à droite, honnêtement, ça bougera plus beaucoup. Et là-dessus, je suis assez quand même tranquille.
En charnière centrale, si on se dit derrière Bonucci, si je te dis Gianluca Mancini.
Ouais. Alors, il faut encore qu'il corrige quelques défauts qu'il peut avoir. Notamment,
le caractère aussi, c'est insupportable.
Ouais, voilà, dans le caractère et l'attitude. Alors, j'espère. Je sais pas si avec Mourinho, c'est le bon entraîneur pour le calmer. Je trouve que c'est très compliqué.
C'est fou. C'est les cartons jaunes en pagaille, ça va, quoi.
Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est surfait tout le temps.
Mais bien
c'est
sûr,
tout c'est surjoué, exagéré. Et c'est pas naturel. Et un leader, c'est pas ça pour moi. Ça doit être plus naturel que ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment un problème avec Mancini. C'est un problème de caractère. Tu l'as dit. Une fois qu'il aura corrigé ça,
ouais.
je pense que ça peut être un très bon défenseur. Voilà, il a encore beaucoup de limites. C'est pour ça qu'on parlait notamment que Bonucci, on peut pas le sacrifier maintenant.
Et sur Mancini, le problème des cartons jaunes, il prendrait des cartons jaunes sans arrêt dans le jeu, tu vois, des fautes, machin.
Oui,
etc.
totalement. Ouais, ouais.
Mais les trois quarts des cartons, faudrait que je me penche clairement sur les stats là-dessus. Je vais pas exagérer, je vais dire la moitié pour pas trop exagérer.
Ah, bien sûr.
C'est des contestations. En plus, des trucs bidons. Contestation à 70 mètres de ton but. Mais ça sert à quoi? À part te prendre un carton, ça sert à quoi? Bon, bref. Donc, Mancini. Point délicat derrière Bastoni.
derrière Bastogne, écoute, moi je me suis fait une petite liste quand même de défenseurs. Alors il y a Luis Felipe aussi qui était appelé quand même, on va dire, dans les rotations avec Mancini.
Alors, moi je le garderais, lui, c'est pas un. Mais je le garde en secours, tu vois. Dans le... S'il continue à nous faire des listes de 33 ou de 34.
Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, alors Luis Felipe, moi aussi, je l'apprécie, mais j'attends de lui quand même, il a 25 ans, le fameux Grande Salto quand même. Ouais. Voilà, qui passe ce cap.
Mais on l'aura peut-être pas, Guillaume, hein, parce que. Peut-être. T'as vu peut-être. Sur. Je sais pas si t'avais suivi ça, mais Sky, c'est Dimarzio qui a dit qu'il avait signé au Betis, hein, pour la saison prochaine.
Ouais, bah c'est pour ça, mais c'est pour ça, justement. Donc ça m'inquiète assez. Alors après, tu vois, faudra surveiller aussi. On rappellera que la Juve a pris Gatti aussi. Oui. Qui
à Frosinone.
Ouais, qui est laissé en prêt. Donc voilà, c'est aussi un défenseur à surveiller. C'est Lovat de Cagliari qui réalise plutôt une bonne saison aussi. Et qui est encore assez jeune, hein, parce qu'il a 22 ans, donc c'est un joueur intéressant. T'as aussi Gabbia du Milan, mais qui doit encore s'accomplir. Ouais. Puis partir en prêt, ça lui ferait du bien. C'est encore très tôt pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, comme tu l'as dit, Bastogne, c'est notre défenseur d'aujourd'hui, de demain, sans hésitation. C'est sûr que derrière,
c'est Guillaume qui a un nom que t'as pas cité.
Dis-moi.
Et je suis limite content que tu l'aies pas cité. C'est Romagnoli.
Tu sais pourquoi, Johan? Parce que Romagnoli, pour moi, je trouve qu'il a. Tu rends-toi compte, tu sais, que depuis l'arrivée. Alors, quand Kier arrive à Milan, il lui a pris sa place. Mm-hmm. Ensuite, Tomori est arrivé, il lui a pris sa place. Kalul, aujourd'hui, il lui a pris sa place. Le problème de Romagnoli avec Milan aujourd'hui, c'est qu'il a enfin le contrat et on le sait, il va partir normalement à Lazio. Et le problème, c'est son statut, parce qu'il faut rappeler qu'il était capitaine. Mais en fait, même en étant capitaine, il y a trois joueurs qui lui ont pris sa place, dont Pierre Kaloulou, qui est, on va dire, quasiment irréprochable depuis qu'il est mis titulaire. Et d'ailleurs, Pioli, il ne peut pas l'enlever parce qu'il est trop important aujourd'hui. Et Romagnoli, c'est un peu le problème de Luis Felipe. Il n'a pas fait le grande salto. Et c'est un joueur qui, pour moi, était bon à l'époque du Milan chinois. Tu te souviens, Johan, quand il jouait la 5-6e place. Mais quand il a fallu passer ce step supplémentaire, que ce soit en Ligue des Champions ou maintenant que tu joues le titre, il n'a pas su le franchir par des fautes bêtes, par des marquages trop laxistes, par des fautes dans la surface. Vraiment, il a beaucoup de lacunes. C'est un bon défenseur, mais je pense qu'il n'arrivera jamais à franchir ce cap qui en aurait fait un grand défenseur.
Je suis d'accord. Est-ce que tu te souviens de comment je l'avais appelé il y a,
alors,
il y a deux ou trois ans?
Que tu étais très dubitatif sur lui. Tu l'as toujours dit. Ouais. À l'époque, il était titulaire, mais je ne me souviens pas comment tu
l'avais appelé. J'avais un surnom, c'est quand il avait pris le brassard de capitaine à Milan et je l'avais appelé le capitaine de pédalo. Parce que pour moi, il n'a rien d'un grand défenseur. C'est un joueur qui est lent, qui sert jamais son attaquant de près, donc il a toujours 2 mètres de retard quand il essaye d'anticiper, et après c'est terminé.
Le marquage,
qui a du mal.
Camino, oui, on parle d'un marquage laser à chaque fois.
Exactement.
Quand on a
du
jour, ouais.
Qui a du mal à se retourner. C'est une catastrophe. Et pas du tout dynamique sur les appuis. Il y a trop de choses qui vont pas, donc Romagnoli, oublions-le. Ouais. Arrière gauche. Bon, est-ce qu'on continue avec Emerson?
Moi, j'ai envie de te dire oui, même s'il fait pas une énorme saison à Lyon. Voilà, je pense qu'il. Alors, je sais pas, j'ai pas l'âge d'Emerson sous les yeux, mais je pense qu'en tout cas, voilà, c'est un joueur quand même qui peut
27
être
ans.
27 ans, voilà. Donc, je pense qu'il peut être encore appelé. Et après, le poste, comme tu l'as dit, alors j'espère qu'il va revenir parce qu'il est trop important pour nous. C'est Spinazzola, évidemment, mais voilà, Emerson, en tout cas, je pense que c'est une bonne solution de repli pour quand Spinazzola serait pas là. Et après, bon, t'as des joueurs aussi comme Biraghi, tu vois, des Chilio qui est parfois appelé.
Non.
Voilà.
Non, mais donc, tu vois, Biraghi, pour moi, c'est. Quand tu vois dans une équipe joueuse comme la Fiorentina d'Italiano, c'est un joueur qui est très intéressant. Hein.
Et qui a un bon pied gauche.
Et qui a un bon pied gauche. Moi, par exemple, il a 29 ans, ok, très bien. S'il y a une galère à gauche, tous les jours, je l'appelle.
Mais tu sais que des Chilio a 29 ans aussi. Hein.
Bien sûr.
Donc, je pense que tu vois, si tu fais Spinazzola, Emerson et Biraghi, voilà, c'est pareil.
Il y a deux autres solutions derrière, Guillaume. Tu me dis ce que t'en penses. La première, Luca Pellegrini, de la Juve, 23 ans.
Oui.
L'autre derrière, à qui on pense pas toujours, mais parce qu'il a un rôle aussi un peu hybride en club, c'est Federico Di Marco.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, bah, comme tu l'as dit, il a un peu ballotté dans le 3-5 de Inzaghi, donc c'est un peu compliqué de lui donner un poste défini. Mais c'est sûr qu'en, voilà, lui aussi, en parlant de pied gauche,
lui m'intéresse.
Ouais, exactement. Di Marco, qui est encore assez jeune en plus, c'est un joueur qui clairement aussi peut rentrer dans le giron de la nationale. Et pour revenir à Luca Pellegrini, je suis d'accord avec toi, avec la Juve. Après, avec Alexandro dans cette forme là, c'est pas très compliqué, mais en tout cas, il a montré des choses intéressantes. Il l'avait déjà fait à Cagliari à l'époque. Voilà, c'est aussi un latéral qui me plaît beaucoup. Donc, non, c'est des noms, oui, qui sont tous plausibles pour le rôle. Après, voilà, qui pour moi est attribué, si tout se passe bien, à Spinazzola. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat.
Mais Guillaume, il y a un seul truc qui me gêne avec Pellegrini, Luca, du coup, parce qu'on parlera de Lorenzo ouais. après. C'est qu'en fait, il est incapable de finir un match. Physiquement, ouais. il est tout le temps avec des crampes à la fin du match, tout le temps la petite gêne musculaire, la petite alerte, le petit truc qui va pas.
Parce qu'il a pas l'habitude d'enchaîner en plus.
Ouais, et puis c'est un joueur qui est quand même sujet aux blessures aussi. Ouais. Donc.
C'est dommage parce qu'il est suspendu là pour Govinter. J'aurais bien aimé le voir dans un match comme ça. Ouais. Qu'il aurait probablement joué, mais oui, il y a aussi évidemment un problème de blessure parce que le potentiel a toujours été là, mais sa carrière pour l'instant a toujours été tronquée par des blessures parfois même plus importantes. Donc oui, c'est sûr que c'est un vrai problème aussi d'autonomie, de gestion du physique.
On va passer un peu vite sur le milieu de terrain, parce qu'on a commencé à l'évoquer sur jeu quand on a parlé de Jorginho, mais on va juste faire un petit name dropping pour rappeler quand même que le ouais. réservoir est assez important. Donc on a Verratti, on a Barella, on a Tonali, on a Locatelli, on a Lorenzo Pellegrini, on a Matteo Pessina. On a
aussi,
ouais, je suis pas très fan de Cristante,
oui,
mais c'est vrai, on a Fratesi qui pour moi, alors non pardon, là, on était dans le 11 donc je vais pas l'évoquer tout de suite. Donc on a tout cela au milieu de terrain, ça fait déjà pas mal et on verra dans ceux qui peuvent rejoindre le groupe de manière durable, on aura aussi quelques noms. Et puis en attaque, mon cher Guillaume, si je te dis que il est essentiel aujourd'hui de donner beaucoup plus de temps de jeu à... Bon, ça va pas te surprendre, et voilà, mais c'est Zaniolo, t'en as parlé. Scamacca, on l'a déjà dit, et aussi Raspadori, parce qu'on a... Bizarrement, on a aussi vu que contre la Turquie, dans un match qui comptait pas, mais avec une équipe turque qui alignait les titulaires, bah, qu'il était tout à fait capable de répondre présent aussi.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Et c'est tout, c'est des joueurs quand même globalement jeunes. Hein. Zaniolo a 22 ans. On parle de Chiesa évidemment aussi. Hein,
oui, pardon, bien sûr.
Et qui est un titulaire du poste. Après, peut-être d'autres joueurs tu vois, comme Zakane qui aussi. Mais
alors, ça, c'est dans ceux qui. C'est la deuxième catégorie, ouais.
Ah ok, voilà. Donc, mais voilà, pour revenir au titulaire, tu vois, si ta ligne attaque, alors je te la donne comme ça, mais Zaniolo, Scamacca, Chiesa, voilà, c'est quand même ouais, pas trop mal.
Bien sûr. De et en quatrième donc, homme, t'as un Raspadori derrière qui peut jouer aux trois postes en plus.
Exactement, exactement. Donc okay. Voilà, c'est en attaque au milieu, je pense qu'on a les solutions. Et tu sais, alors, on va pas non plus dériver là-dessus, mais je me demande si Mancini avait aligné cette compo-là. Alors après, c'est toujours simple de le dire aujourd'hui, hein. Et je me suis demandé quand même cette nuit, parce que j'avais du mal à dormir, je me suis dit, mais est-ce que s'il avait mis ce 11-là face à la Macédoine, est-ce qu'on aurait été éliminé quand même? Je sais pas.
Bah ouais,
on sort, non, mais bien sûr, évidemment que c'est difficile. Mais tu vois, des fois, voilà, une question un peu simpliste comme ça, je me suis dit, mais tiens, si après, l'enjeu est pas du tout le même, c'est toujours plus simple de jouer un amical contre la Turquie qu'un demi-finale de barrage contre la Macédoine. Mais en tout cas, voilà, je me suis demandé, voilà, c'est juste comme ça, mais en tout cas, l'attaque, moi, Zaniolo, Scamacca, Chiesa, voilà, pour moi, c'est l'attaque de demain. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de doute.
Deuxième catégorie, Guillaume, les joueurs qu'on aimerait voir plus dans le groupe ou appeler pour la première fois. Je te soumets tout de suite trois noms. Davide Fratesi.
Bien sûr.
Tommaso Pobega.
À l'Inter. Hein.
Voilà. Tommaso Pobega.
Très bon avec lui. Alors, lui aussi, hein, sa position est un peu... c'est compliqué. Lui. Alors, qu'il joue assez haut avec le Torino de Juric.
Ouais.
Mais on rappelle qu'il est en prêt par Milan, il devrait revenir l'été prochain.
Il va revenir et tu sais quoi ? Il va être très important aussi pour les listes UEFA. Parce que alors, Milan ouais, est en vraie galère sur les formés au club et formés en Italie.
Bien sûr. Mais tu le mets où du coup pour aller dans le 4-2-3-1 par exemple ?
Alors si c'est en 4-3-3, ça reste en 4-3-3 pour moi, c'est relayeur gauche.
Ouais.
Et 4-2-3-1, ça serait pas mon option prioritaire.
Ouais. Non, parce que tu vois, s'il revient à Milan quand même, il
ah, tu veux dire à Milan, pardon, excuse-moi, oui, dans le 4-2-3-1 du Milan, bah, dans le milieu à deux en fait. Il ouais. a fait aussi à Spezia dans un milieu à deux. Il en est capable.
Il a le volume de jeu pour le
faire. Il a le volume de jeu pour le faire, mais dans le 4-3-3 de la sélection, je le vois bien en relayeur gauche, en solution. Devant la défense seule, non. À droite, non. Relayeur gauche, oui, comme il est fait avec les U21 d'ailleurs. Voilà.
Et moi, je te donne deux autres noms si tu veux.
Alors, et Zakani, j'avais mon dernier nom.
Alors, moi, je voulais donner Samuel Eric aussi.
Eh oui.
Voilà. Je sais que tu aimes beaucoup et que moi aussi. Et un joueur aussi qui cette année me plaît. Alors, il est un peu plus âgé, il a 24 ans, c'est Mandragora. Voilà. Mm-hmm. Alors, c'est un peu plus avancé dans l'âge, c'est encore assez jeune. Mais voilà, c'est aussi un joueur qui me plaît. Voilà. Mais Ricci, je pense que, et encore une fois, un joueur comme Fagioli qui rayonne avec l'U21, c'est aussi un joueur qui, pour moi, est amené à monter. Même si tu l'as dit, le milieu, quand même, est fourni. Donc, c'est assez compliqué aussi de se faire des places. Mais voilà, il y a quand même beaucoup aussi dans le réservoir. Tu as des joueurs de qualité qui sont là, présents pour apporter leur qualité justement au milieu de terrain.
Alors dans la troisième catégorie à surveiller de près, il y a évidemment, tu viens de le citer, Fagioli. J'avais mis Samuele Ricci, mais pour entrer dans la
Rovella catégorie. Rovella aussi, hein, qu'on pourrait dire.
Et exactement, j'avais évidemment Nicolò Rovella, qui jouera-t-il ou pas à la Juve la saison prochaine. C'est un autre débat. J'ai deux autres noms à te soumettre, c'est des défenseurs, parce qu'il y en a besoin. Le premier, pour moi, il faudrait le faire monter dès maintenant. Je sais que certains vont peut-être crier, vont trouver que c'est trop tôt, mais pour moi c'est indispensable pour prévoir l'avenir. C'est Scalvini de l'Atalanta, qui commence à avoir du temps de jeu, qu'il faut absolument qu'il joue encore plus avec Gasperini à l'Atalanta, et il faut vraiment qu'on commence parce que à chaque fois que je le vois, je le trouve intéressant en fait. Et c'est pas simple de jouer à l'Atalanta aujourd'hui. Il y a un niveau d'exigence qui est quand même très important. Quand je le vois avec les U19, Scalvini, il est très bon. Et le deuxième, pour moi, c'est encore un joueur de l'Atalanta qui est prêté à la Cremonese cette saison, c'est Okoli, qui est pour moi un défenseur au profil qu'on n'a pas en Italie, qui aime les duels, très rugueux, qui a quand même une qualité de pied assez intéressante, qui est très très bon avec... je crois qu'il a 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui est très très bon en Serie B. Lui, c'est pas tout de suite. Par exemple, tu me demandes entre Scalvini et Okoli, pour moi, Scalvini est plus près. Et puis, dernier nom, dont je parle régulièrement en optique Inter, c'est Casadei. Parce que je le vois avec la Primavera, parce que je l'ai vu avec les U19 italiens. Il est au-dessus. Il est au-dessus. C'est un milieu moderne qui, en plus, est bon de la tête, qui est assez grand, qui est physique. Techniquement, il a pas trop de problèmes. Donc voilà, c'est des joueurs, comme on balayait assez large. Il y a un dernier nom sur lequel je veux te faire réagir, Guillaume. Alors, en sachant qu'on ne les a pas cités, mais on est assez d'accord pour dire qu'un joueur comme Bérard, il doit continuer. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus.
Je pense qu'au milieu aussi, moi je t'en souviens, non, au passage, de Bove, de la Roma.
Oui, Eduardo Bove.
Ouais, je pense qu'il pourrait aussi être amené un jour, parce qu'il a quand même, je trouve qu'il il progresse beaucoup avec la Roma. On l'a vu qu'à quelques apparitions cette saison. Est-ce que selon toi, Bove aussi peut être amené
Pour moi, il part de très loin parce que.
Oui, non, évidemment, un joueur très loin. Hein.
Mais c'est un joueur intéressant et Mourinho l'adore. Donc, il y a quand même des raisons qui doivent pousser Mourinho à l'adorer. Ouais. Dernier nom sur lequel je voulais te faire réagir. C'est marrant parce qu'on ne l'a pas évoqué non plus. On fait quoi avec Moiskin?
Tu sais que Moiskin.
Parce que dans le genre grand perdant des derniers mois en sélection. Il se pose
tu sais que Moiskin, le problème, c'était le Covid. Il y a eu un avant, un après. Il a complètement été, alors j'ai pas envie de dire fauché parce que le mot est trop gros. Et malheureusement, dans cette pandémie, il y a d'autres gens qui ont tristement été. Mais Moiskin, tu te rappelles, il avait parlé de ses poumons, des problèmes aux poumons qu'il avait eu. Je crois que c'était un match contre le Barça avec le PSG. Et depuis, on n'a jamais retrouvé le Moiskin. Cette saison à la Juve, c'est très, très, très compliqué. Donc, comme tu l'as dit, il y a un moment où tu te rappelles, il y avait ce débat, est-ce qu'il doit jouer en numéro 9, est-ce qu'il joue dans le couloir droit. Voilà, Mancini le fait jouer le plus sur le couloir droit quand il est appelé. Mais oui, c'est clairement le grand perdant de ces derniers matchs, ces derniers mois. Voilà, du moment qu'il n'aura pas retrouvé, je pense, la condition physique. Mais voilà, et pour moi, il y a eu un avant et un après pour Moiskin qui pourtant était très prometteur. Il a d'énormes qualités, mais aujourd'hui, clairement, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer parce que, à un moment, quand même, il était en passe de s'installer en sélection et il a raté le virage.
Guillaume, on passe à la dernière partie. Alors, je te propose de laisser de côté parce qu'on n'aura pas le temps la question des stades, infrastructures.
Tu sais qu'il y a un nom qu'on n'a pas cité. Alors, au passage, parce qu'on en parlait, c'est Lorenzo Lucca. On attaque aussi.
Ouais.
Mais non, mais j'en parle parce qu'on en a parlé à un moment.
C'est vrai, t'as raison.
En octobre-novembre, 6 buts. Alors, on va la faire vite. 6 buts en série B, il n'a pas marqué depuis octobre. Pise en réclamait déjà 20 millions. Ça, voilà, ça résume aussi le problème que parle le foot italien. Voilà, d'un attaquant qui est certes probablement prometteur, mais qui est encore beaucoup trop, c'est encore beaucoup trop tôt pour l'appeler. Et surtout quand ton club demande 20 millions d'euros, c'est compliqué de l'imaginer voilà, dans un grand club aujourd'hui, surtout si voilà, le prix baisse pas un peu.
Bah, puis Guillaume, il y a un truc tout simple aussi, hein, c'est qu'il a perdu sa place.
Oui, bien sûr.
Parce qu'au mercato d'hiver, si je dis pas de bêtises, ils ont fait venir Torregrossa de... Ouais. Où est-ce qu'il était lui? Il était à la Samp, je crois.
Ouais. Qui est un attaquant un peu du même genre, mais plus expérimenté.
Exactement. Ouais, pour faire simple. Et bah, lui s'est imposé et Luke a disparu. Tu te souviens quand Mancini est allé le voir?
Oui,
bien sûr. Plus, ouais. C'était un match de Pise, je me souviens plus du match. Il était en tribune, etc. Mais ça a été gonflé trop tôt, en fait.
Mais bien sûr. Voilà, parce qu'on attend depuis trop longtemps un attaquant.
C'est vrai.
Voilà. C'est aussi, et c'est là aussi que les médias ont leur rôle dans ce genre de débat, là, on va dire.
Exactement. Donc sur la dernière partie, on va laisser de côté la question des stades et infrastructures parce que même si c'est important pour le football italien, c'est pas à cause de ça que l'Italie n'est pas à la Coupe du Monde.
Non, c'est une part. On va dire c'est une partie intégrante du problème.
Alors, exactement.
Que ce soit à la Roma, tu le sais mieux que moi. La Roma, ça fait combien 10 ans maintenant.
Plaisantait hier soir, Guillaume, mais
oui.
Le projet de voir Totti entrer dans le nouveau stade.
Voilà, on a vu les deux clubs de Milan qui aujourd'hui pourraient quitter le quartier de San Siro pour aller à San Giovanni. Donc voilà. C'est un problème global, on va pas parler de commissaires. Il y a un problème de stades qui sont beaucoup trop vieux, mais pour moi, c'est un problème même qui va au-delà de ça.
C'est de la bureaucratie italienne.
Exactement. Et dans le pays, on l'a bien vu, il y a beaucoup de choses qui devraient être rénovées, qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas un problème vraiment relatif au sport, mais évidemment que ça joue en partie dans la réflexion globale qu'on a aujourd'hui.
Exactement. Je te propose de faire juste un petit laïus sur le football amateur, parce qu'on va beaucoup parler de la place des jeunes dans le football italien. Sur le football amateur, ce que je voulais dire, c'est que, mais comme dans beaucoup de pays, dont tous les pays quasiment, il y a eu un avant et un après Covid. Avant Covid, c'était déjà compliqué de survivre. Après Covid, c'est encore plus compliqué. Il y a une partie du football amateur qui est en train de mourir, qu'il faut soutenir financièrement. Parce qu'avant de se dire le million qu'on touche en plus, là, comment on se le répartit, etc., il faudrait aussi penser au football amateur. Parce qu'on oublie trop souvent qu'avant d'arriver dans les centres de formation des gros clubs, la plupart des jeunes débutent dans des clubs amateurs. Et que si un club amateur met la clé sous la porte, ça a deux conséquences majeures pour moi. La première conséquence, c'est qu'il y a des jeunes d'un petit village, d'un quartier, en gros en zone non urbaine et urbaine, on va essayer d'englober tout le monde, qui peuvent ensuite se détourner du foot et aller s'inscrire dans des clubs d'autres sports, où il y a moins de problématiques d'argent, parce qu'il y a moins de nécessité d'argent. On sait que le football brasse beaucoup d'argent et nécessite beaucoup plus d'argent. Et la deuxième conséquence, c'est que s'il y a des clubs amateurs qui meurent, ça assèche aussi le réservoir de jeunes Italiens qui pratiquent le football. Et donc, tout en haut de l'échelle, la base du football italien, c'est le football amateur, mais tout en haut de l'échelle, c'est le football professionnel qui va en souffrir parce que ton réservoir va diminuer. Et ça, je pense que vraiment les clubs doivent mener une réflexion là-dessus sur comment on doit aujourd'hui considérer et aider le football amateur, parce que déjà il y a une question philosophique derrière, c'est de ne pas laisser crever ceux qui ont le plus besoin d'argent, les plus pauvres entre guillemets, déjà rien que de base. Et puis la deuxième chose, c'est que si on s'intéresse vraiment au futur de nos clubs, c'est pas simplement la Super League, le futur de tes clubs, c'est les futurs joueurs. Et les futurs joueurs, ça passe aussi par les clubs amateurs au plus bas niveau de la construction d'un footballeur, les débutants, les poussins, etc., les U6, les U7, les U8, voilà.
Alors déjà, il y a un problème, c'est que le fait de manquer la Coupe du Monde, aussi, il ne va pas pousser les jeunes générations à dire à suivre le football, même si l'Italie reste un énorme pays de football. Toi, comme moi, Johan, on a beaucoup de souvenirs des Coupes du Monde quand on était jeunes. Là, on a tous des souvenirs de ce qu'on a vécu. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, tu as quand même deux générations qui vont manquer deux Coupes du Monde. Donc, on va dire que ça n'aide pas non plus, même si l'Italie reste un pays de football, encore une fois. Voilà, à l'oratorio, à des choses comme ça, tu joueras plus au football parce que y a une espèce de perte aussi de souvenirs, de passion que peut avoir un pays lors d'une Coupe du Monde, de un. Et de deux, pour revenir à ton sujet, on pourrait compter le nombre de clubs qui ont fait faillite ces dernières années en Serie C. Et les plus grands, on va dire, ou les plus connus, on peut parler de Palerme ou de Catania, des clubs qui ont souffert beaucoup de la crise, évidemment. Aussi, il y a eu des propriétaires un peu louches. Mais voilà, je pense, honnêtement, j'avais fait un papier il y a pas longtemps sur Eurosport. Je crois qu'il y a une cinquantaine de clubs quasiment qui avaient fait faillite ces dernières années. Donc c'est énorme. Et comme tu disais, c'est des clubs qui sont laissés à l'abandon, qui ne sont pas forcément aidés par le foot professionnel, ni par le gouvernement avec la pandémie, parce que ça, on pourrait aussi en parler, mais ça prendrait trop de temps, des aides qu'il y a pu avoir du gouvernement italien au monde du football, et surtout, tu te rappelles à l'époque, les polémiques qu'il y avait avec le ministre des Sports, avec le football, le monde du football en général, qui est quand même une industrie très importante pour le pays. Donc, comme tu le disais, il ne faut pas oublier le bas de l'échelle, parce que c'est de là que tout commence, et c'est de là aussi qu'aujourd'hui, en plus, les jeunes commencent de plus en plus tôt. On le voit dans des clubs, j'ai envie de prendre le Barça par exemple avec des joueurs comme Pedri, mais parce que tu as encore la Masia derrière, donc c'est encore différent. Mais c'est important aussi de ne pas oublier, comme tu disais, des clubs qui sont vraiment en bas de l'échelle, parce qu'il y a des clubs qui meurent, et avec les clubs qui meurent, c'est des joueurs qui meurent aussi, parce qu'ils n'ont plus de club. Et par exemple, alors là, au niveau professionnel, à partir du Chievo Verona, qui a fait faillite, et c'est Pellissier, le fameux attaquant du Chievo à l'époque, qui a repris le club, et ils sont partis du dernier barreau de l'échelle. Donc, il y a aussi des problèmes économiques à tous les niveaux, mais surtout, comme tu l'as dit, au niveau amateur.
La place des jeunes dans le football italien, Guillaume, très important. Je te propose de prendre trois exemples que je prends régulièrement, parce que parfois, il n'y a pas meilleure démonstration que l'exemple. Et en plus, quand je parle des jeunes, je parle même pas que des jeunes italiens. Mais le fait est qu'il y a beaucoup plus de jeunes italiens que de jeunes étrangers en Primavera, contrairement aussi parfois à ce que essaye de faire croire Arrigo Sacchi dans...
Il disait 30%.
Voilà, mais c'est à peu près conforme à d'autres pays, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais plus tu fais jouer de jeunes, mécaniquement, vu qu'il y a plus d'Italiens dans les équipes de jeunes, bah, c'est plus d'Italiens qui vont jouer. Donc dans mes exemples, il n'y a pas que des Italiens, mais il y en a pas mal. Moi, j'ai aucun problème. Enfin, aucun problème. Ça se discute. C'est pas forcément ma vision du football. Mais si un club n'a que des cracks dans son effectif de l'équipe première, si on m'explique que les jeunes ont pas leur place, bon, je peux l'entendre. En fait, si t'as 3 milieux de terrain de classe mondiale plus 2 sur le banc, bon, le jeune milieu de terrain qui a 19 ans, même s'il est bon en Primavera, bon, ok, il a pas sa place. Mais moi, je considère, je fais partie de l'école de Johan Cruyff, donc c'est pas l'Italie, c'est les Pays-Bas, qui, lorsqu'il a mené sa révolution à l'Ajax au début des années 2010, expliquait on ne doit plus recruter que des joueurs qui sont meilleurs que ceux qu'on forme. Je suis pas en train de dire qu'il y a un club italien qui est en position de l'Ajax, mais c'est simplement une philosophie de pensée, une idéologie sur le football qui me semble très importante. Si tu recrutes des joueurs, il faut absolument qu'ils soient meilleurs que ceux que tu formes. Parce que comment justifier sinon une dépense d'argent pour un joueur qui n'est pas meilleur que celui que tu as déjà en magasin ? C'est tellement logique que ça me paraît absurde. Et justement, dans les exemples que j'ai Vigna à la Roma, transféré pour 15 millions d'euros, 1,5 pour l'argent, tranquille Mimille. Entre parenthèses, Guillaume, les chiffres sont sortis hier, mardi, puisqu'on enregistre mercredi. Sur les commissions versées aux agents, sur les 6 dernières saisons, plus d'un milliard. Quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent dans le football italien, bon. Vigna, donc 15 millions d'euros, pas meilleur que Calafiori, qui était formé par la Roma, qui a ensuite dû partir pour essayer de gagner du temps de jeu au Genoa, il n'en a pas spécialement non plus. Mais Vigna, il s'est fait doubler par Calafiori, il s'est fait doubler par Maitland-Niles, on va en parler dans un instant, qui est un latéral droit qui a été obligé de se mettre à gauche, mais c'est catastrophique. Donc ensuite, on est obligé de mettre El Shaarawy, qui est un ailier au poste de piston gauche. Et ensuite, on s'est dit, bah, El Shaarawy blessé, on va retourner pêcher dans la Primavera avec Zalewski, le jeune polonais, et qui donne satisfaction. Maitland-Niles, recruté en prêt cet hiver. Gros problème de contrôle passe, ce qui est quand même problématique pour un joueur. Et moi qui regarde un petit peu les matchs de Primavera, y a un joueur dans la Primavera de la Roma qui est l'une des meilleures d'Italie. Pour faire simple, hein, au niveau de la formation en Italie, Roma, Atalanta, Inter, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, mais depuis plusieurs années, avec Empoli, mais c'est un niveau en dessous, je veux dire, dans les clubs principaux, c'est ceux-là qui comptent, hein, et clairement. Qui s'appelle Missori, qui est bon, et qui est pas moins bon que Maitland-Niles. Vidal à l'Inter, coût des deux années de contrat passées, 17,2 millions d'euros. Quel est l'apport de Vidal à l'Inter, Guillaume ?
Non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. D'où vient ce problème-là ? Est-ce que c'est un problème de manque de confiance, de peur d'avoir trop de, de manque de temps par rapport à la culture du résultat qui peut exister en Italie et à la passion qui en découle derrière. Selon toi,
tu as raison, Guillaume, de parler d'immédiateté de résultat.
Voilà.
Ouais. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on estime que Vidal va plus t'apporter qu'un Cazadei. Alors
tout
que.
De suite,
oh, bizarre. Ouais. Bah, même tout de suite, il apporte pas plus. Enfin, on le sait pas pour Cazadei puisqu'il joue pas, mais Vidal apporte tellement peu à l'Inter que c'est difficile de se dire qu'un jeune de 19 ans apporterait moins. Même chose pour Ramsey à la Juve, hein, c'était mon troisième exemple. Ramsey à la Juve, quand tu vois Fagioli en série B. Alors maintenant, il a été prêté aux Rangers, mais tu payes encore une bonne partie du salaire. C'est parmi les exemples. Hein. Y a l'immédiateté du résultat. Il y a aussi, on va pas se mentir, le montant des commissions avec les agents. Bah, y a du copinage d'agents. J'ai tel joueur. Si vous voulez qu'il prolonge avec vous, j'aimerais bien que tu me prennes tel joueur cet été. Ah bon, bah oui, c'est vrai que ton joueur principal, là, il est important chez nous. Ah, j'ai envie qu'il prolonge, j'ai pas envie qu'il parte gratuit dans 2 ans. Ok, ton joueur, on va s'arranger pour le faire signer. Voilà comment ça se passe. Et c'est inutile de nier, ça se passe vraiment comme ça.
Ah oui.
Mais vraiment, et même dans des clubs, sans dire de nom, parce que j'ai pas envie de dire de nom, mais bien organisés, souvent pris en exemple, etc. Je vais vous prendre un autre exemple de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Atalanta, on est certain que Petzel, c'est mieux que Ruggeri, le jeune arrière qu'ils ont prêté à la Salernitana? Moi, j'en suis pas persuadé. Est-ce que De Paoli, quand ils l'ont fait venir, je prends justement l'Atalanta qui est cité souvent en exemple, hein, mais pour montrer que c'est vraiment tout, même les clubs qui travaillent le mieux ont aussi des trucs avec les jeunes qui vont pas. Est-ce que De Paoli qui sont recrutés, qui était une catastrophe absolue, est-ce qu'on est certain que c'était mieux que Del Prato, qui a été prêté à la Regina et qui maintenant est à Parme? Je suis pas certain.
Tu sais que le temps de jeu, je disais dans Tutto Sport la semaine dernière, le temps de jeu des U21 italiens en Serie A est à moins de 1%. Voilà, c'est assez symbolique quand même. Et dans les effectifs de Serie A, dans les 20 effectifs de Serie A, c'est 5%. Un peu moins de 5%, donc. T'as aussi quand même, hein, voilà, comme tu le disais, t'as des joueurs. Alors, parfois, il y a des joueurs aussi qui ont peut-être pas le niveau. Mais ça, tu peux pas le savoir parce qu'il y a des gens qui sont encore très jeunes.
Eh oui.
Et si tu leur donnes pas leur chance, tu pourras jamais le savoir.
Exactement.
On pourrait prendre un exemple, le contre-exemple qui peut exister. Par exemple, tu vois, un joueur comme Cutrone, que moi j'appréciais, mais tu vois, avec le temps, on a vu aussi qu'il était un peu limité. Des Chilos, c'est un peu pareil aussi. Tu as des joueurs aussi qui ont leur chance et qui, voilà, arrivés au très très haut niveau, ont parfois du mal à faire la bascule.
Bien sûr.
Et comme tu le disais, tu as des joueurs aussi qui sont très intéressants en primavera, qui montrent des belles choses et qui, pour avoir du temps de jeu, alors peuvent être prêtés. Moi, je te prends l'exemple aussi de l'Inter avec Pinamonti, qui avec Empoli fait une très bonne saison, qui pourrait être rappelé l'été prochain, plutôt qu'un Alexis Sanchez qui fait une saison correcte. On va rappeler quand même qu'il prend un salaire de 7,5 millions d'euros. Et je ne suis pas sûr que Pinamonti t'apporterait moins qu'Alexis Sanchez à l'Inter. Malheureusement, à l'époque, bah voilà, ils ont préféré miser. Alors, Pinamonti n'était pas encore le Pinamonti qu'on connaît aujourd'hui d'Empoli. Mais en tout cas, voilà, il était déjà prometteur. Mais aujourd'hui, tu as quand même un joueur, et je sais que tu es attaché aux valeurs des contrats comme Vidal. Alexis Sanchez, c'est quand même 7,5 millions d'euros, ce qui est énorme pour l'Inter. Et quand tu vois le joueur qui est devenu Pinamonti, qui pourrait prétendre peut-être pas une place titulaire à l'Inter, mais du moins être dans les rotations avec Lautaro et Dzeko qui avance dans l'âge aussi, est un joueur comme Satriano qui a été prêté à Brest, qui fait une bonne saison aussi et qui a toutes les promesses aussi pour faire du bien à l'Inter. Donc comme tu disais, parfois c'est un manque de temps de jeu, d'espace, de confiance. Parce que, on a parlé, le résultat, la passion, la pression de l'entraîneur qui n'ose pas forcément lancer dans les fameuses grandes piazze, que ce soit Milan, Inter, Roma, Juve et j'en passe. Et malheureusement, ça fait aussi qu'aujourd'hui, tu as des joueurs qui peuvent jouer dans les U21 qui ne sont pas du tout, mais même pas dans les rotations des clubs. Bon, ce qui est assez paradoxal. Et Nicolato, d'ailleurs, le sélectionneur, a crié quand même à l'aide en disant mais il faut que ça change parce que nous sinon on n'y arrive plus.
Et d'ailleurs Guillaume, il y a souvent des idées reçues sur les équipes de jeunes en Italie en disant il n'y a plus de crack, etc., ce qui peut s'entendre, hein. Mais je vais juste rappeler quelques résultats des sélections de jeunes italiennes récemment, sachant qu'en 2020-21 il n'y a rien eu puisque année Covid. Coupe du monde des moins de 20 ans en 2017, Italie 3e. Coupe du monde des moins de 20 ans en 2019, Italie 4e. Euro moins de 19 ans en 2016, Italie finaliste. Euro moins de 19 ans en 2018, Italie finaliste. Euro moins de 17 ans en 2018, Italie finaliste. Euro moins de 17 ans en 2019, Italie finaliste.
Évidemment.
Voilà.
Bien sûr.
Et pour avoir vu le match là des U19 contre la Belgique, ouais. Ils sont qualifiés donc pour l'Euro, le prochain Euro. Ils se sortent d'un groupe avec la Belgique et l'Allemagne, souvent présentés comme des références en termes de formation de jeunes joueurs. Ils terminent invaincus avec 7 points en 3 matchs. Ils ont battu la Belgique 2-0. Et dans les joueurs qui ont brillé sur ce match-là, il y a notamment Cazadei de l'Inter. Bizarrement, on le retrouve. Et puis dans cette équipe titulaire, il y a Scalvini de l'Atalanta, il y a Faticanti de la Roma, il y a Fabian qui joue aussi à l'Inter, il y a Ambrosino de la Primavera du Napoli qui marque but sur but avec la Primavera du Napoli. Voilà.
C'est important de dire aussi dans ce podcast, et il est aussi là pour ça, c'est qu'on repart pas de zéro.
Exactement.
C'est les bases. Et que autant en 2017, je pouvais entendre cet argument-là parce qu'on était au milieu de nulle part, au milieu du désert, et parce qu'on ne sait pas trop par où recommencer. Mais voilà, je pense que tout ce que tu viens de dire sur les résultats des équipes de jeunes italiennes, ça prouve quand même qu'on a un réservoir. Alors évidemment qu'il n'y aura peut-être pas un crack à l'Mbappé qui va ressortir dans les 10 prochaines années, mais Chiesa est italien, Zaniolo est italien, ils sont arrivés là, ils sont en sélection aujourd'hui. Donc voilà, tout à l'heure on parlait de Zaniolo, s'il ne partait pas à la Roma, qu'est-ce qu'il serait devenu?
Ouais.
Et on rappelle qu'à l'époque, c'était un échange avec Nainggolan, il était rentré dans le prêt, hein, Johan.
C'est ça, avec voilà. David Desanton.
Voilà, et à l'époque, Zaniolo, il fallait quasiment rien. Et aujourd'hui, voilà, c'est potentiellement, entre guillemets, un crack. Mais comme tu le dis, il y a quand même un réservoir important. Le plus compliqué, c'est d'arriver tout en haut. Et il y a des choix de mercato, notamment, qui sont logiquement remis en cause quand tu vois la qualité que peuvent avoir certains joueurs de la Primavera.
Ça me fait penser à une dernière chose qu'on peut évoquer, Guillaume, c'est replacer le fameux settore giovanile au cœur des politiques sportives. Parce que tu disais, si Zaniolo n'est pas signé à la Roma, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, c'est facile de le dire aujourd'hui, ce que je vais dire, mais il aurait sans doute servi de monnaie d'échange. Et en fait, en Italie, depuis des années, les jeunes, ils servent à quoi? Pour plusieurs clubs, à équilibrer le bilan financier. Et voilà, donc c'est pas possible de former des jeunes juste pour t'en servir pour des plus-values. La solution des U23, tu te souviens, Guillaume, ça avait beaucoup fait parler. Finalement, il n'y a que la Juve qui a pris une équipe U23 qui joue en 3ème division italienne, en Serie C. Je pense que ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant si t'as une vraie politique sportive derrière. Si c'est pour faire ce que fait la Juve, je vois pas l'intérêt. Si c'est pour ne pas servir de tremplin ou servir pour aligner des joueurs qu'on met dans des doubles transferts ou c'est juste une étape de plus avant toujours le traditionnel prêt en série B une première fois, prêt en série B une deuxième fois, prêt en série A dans un club qui joue le maintien une troisième fois. Et puis pour que le jeune il arrive à 24 ans en équipe première, mais à 24 ans le jeune il est plus jeune. Enfin, il est plus considéré comme jeune. Donc voilà, il faut que la formation redevienne que le but redevienne former des joueurs pour alimenter l'équipe première et non plus former des joueurs pour faire en sorte de masquer toutes les débilités et la folie dépensière qu'on a eue sur des joueurs qui nous ont servi à rien, à qui on a donné des contrats énormes, qui nous ont mis dans le rouge. Et il faut qu'on vende des jeunes parce qu'en plus-value et en bilan financier, c'est génial. Voilà.
Et c'est important aussi, Johan, que cette impulsion-là, elle vienne aussi des grands clubs et pas seulement des petits.
Et de la révolution qui vient de la province en Italie, donc Sassuolo, Atalanta, etc., Empoli notamment dans la formation, ou dans l'utilisation des jeunes, en Angleterre, c'est pas Newcastle, c'est pas Burnley, et c'est pas Wolverhampton qui amène la révolution. C'est Manchester City en mettant un vrai projet sportif avec sa colonne espagnole et notamment Guardiola. C'est Liverpool, comment ils ont fait monter des jeunes joueurs, recruter intelligemment, etc. Mais ça vient des gros clubs et ça c'est important. Aujourd'hui le problème c'est que ça vient de trop bas en Italie et que les gros clubs devraient s'en inspirer. Derrière toute petite chose, Guillaume, la responsabilité des médias. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Si Bastoni se rate, faudra pas dire ah mais il faudrait peut-être appeler Chiellini, hein, etc., etc. Exemple, Zalewski qui passe au travers contre l'Udinese. En plus, il passe au travers face à Molina, qui est quand même l'arrière-droit de la sélection argentine, donc c'est pas rien non plus. Qui se fait détruire dans la presse le lendemain. Ouais, il a pas le niveau, machin, etc. Et, résultat, Mourinho le remet contre la Lazio et il fait un super match.
Tu connais notre demi-mesure en Italie.
Bien sûr. Mais au-delà même du constat qu'on fait nous, etc., que les médias italiens ont fait au lendemain de la non-qualification, maintenant, il faut adopter ce code de conduite-là pour ce qui va se passer dans les mois à venir. Parce que juste faire le constat, c'est pas suffisant. Hein. Et c'est ce qu'on voit un peu trop souvent dans la presse italienne. Le constat, ok, c'est la première base, mais derrière, il va falloir soutenir ceux qui travaillent bien.
Et accompagner.
Accompagner ceux qui travaillent bien, les mettre en avant plus que ceux qui travaillent mal, et puis peut-être poser des questions à ceux qui travaillent mal, de pourquoi ils travaillent mal, de pourquoi ils ne pensent aux jeunes que pour faire des plus-values, et leur poser frontalement les questions. Ça, c'est très important. Voilà, Guillaume, ce qu'on pouvait dire.
Et ben voilà, c'était quand même un bon bilan.
C'était un bon bilan, ça nous a permis de reprendre le micro, Guillaume.
Ouais, on a fait, on a contextualisé ce qui s'est passé malheureusement contre la Macédoine, et voilà, on a essayé de notre petite échelle d'apporter quelques solutions en tout cas. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te retrouver toi, de retrouver les auditeurs, et on peut leur promettre qu'on reviendra bientôt quand même, malgré nos emplois du temps chargés.
Et on a quelques idées et on n'attendra pas 2 ans avant le prochain épisode,
bien
c'est
sûr,
promis.
Bien sûr.
Bon, merci beaucoup Guillaume, merci à tous les auditeurs et auditrices, on était ravis de vous retrouver, de réenregistrer un petit podcast, même si le sujet n'était pas des plus, disons qu'on aurait pu s'en passer, hein. Même si on a aimé le faire, on aurait aimé s'en passer, t'as tout à fait raison, et on se dit donc à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio e Pepe, ciao ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.